Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o economista Gabriel Zucman. Gabriel Zucman tem 37 anos. Nasceu em Paris, fez doutorado na Escola de Economia de Paris, da qual é professor. Também é professor associado da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. E é diretor do Observatório Fiscal da União Europeia. Professor Zucman, je vous remercie pour cette entrevue.
Merci à vous.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1º de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A partir de agora, a entrevista será em francês. Professor Zucman, comment on peut faire pour que les gens les plus riches payent plus d'impôts? Davantage d'impôts.
Il faut les taxer davantage et la façon de les taxer davantage, c'est d'avoir des impôts qui se fondent sur leur patrimoine lui-même. Parce que quand vous êtes très riche, la notion de revenu n'est pas bien définie. C'est-à-dire que c'est facile de manipuler son revenu fiscal pour parfois déclarer très peu ou zéro de revenu fiscal. Donc par exemple, si vous regardez les grands milliardaires américains, Jeff Bezos, Elon Musk, il y a quelques années, il y a eu des révélations du média américain ProPublica qui montraient que ces grandes fortunes américaines ne déclaraient quasiment aucun revenu et ne payaient quasiment aucun impôt sur le revenu. Et la façon la plus évidente de répondre à ce problème, c'est d'avoir une forme d'imposition qui se fonde sur la richesse elle-même, parce que la notion de richesse, elle est difficilement manipulable par les très grandes fortunes. Voilà, si vous êtes milliardaire, ça veut dire que vous avez plus $1 milliard d'actifs nets de dettes. Et donc, ça, on peut le taxer assez simplement.
Si je ne me trompe pas, votre proposition, c'est de taxer 2% de patrimoine des gens les plus riches, des milliardaires, 2% par an. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans 50 ans, ils n'auront rien, parce que ça sera toujours 2% sur ce qu'il reste. Mais bien sûr, dans quelques années, plusieurs années, il aura un important décroissement de leur richesse. Est-ce qu'ils accepteront ça?
Alors, c'est vrai que les grandes fortunes détestent l'impôt sur le patrimoine. C'est vraiment l'impôt qu'elles aiment le moins. Et c'est un bon signe. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment l'impôt qui marche le mieux potentiellement pour ces grandes fortunes. Donc, le fait qu'il y ait des résistances, je ne veux pas les sous-estimer, bien sûr qu'il y aura des résistances au type de propositions que j'ai pu formuler. Mais de mon point de vue, c'est bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, si on arrivait à mettre en œuvre ces mesures, ça ferait une réelle différence. Dans le rapport mondial sur l'évasion fiscale 2024 que l'Observatoire européen de la fiscalité que je dirige a publié l'année dernière, on estime qu'un impôt minimum coordonné au niveau international de 2% sur la fortune des milliardaires générerait de l'ordre de $250 milliards de recettes fiscales supplémentaires au niveau mondial. D'accord, des milliardaires, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a à peu près 3000 à l'échelle mondiale. Ils payent très peu d'impôts sur le revenu aujourd'hui. Donc, la proposition qu'on formule, c'est de dire qu'ils devraient payer chaque année en impôts sur le revenu l'équivalent d'au moins 2% de leur fortune. Donc, quelqu'un qui paye déjà beaucoup d'impôts sur le revenu aujourd'hui n'aurait rien de plus à payer. Et quelqu'un qui paye très peu ou zéro impôt sur le revenu, comme ça arrive parfois même fréquemment parmi les milliardaires, devrait payer un surcroît d'impôt sur le revenu qui serait égal à 2% de son patrimoine. Donc si votre fortune c'est $100 milliards, cette personne qui aujourd'hui paye zéro devrait payer $2 milliards d'impôts. Donc évidemment, il va y avoir des résistances, mais en même temps, tout le monde comprend que ce taux de 2%, c'est une proposition assez modeste. Hein. C'est vraiment, on ne parle pas de confiscation, hein. On est très loin de la révolution communiste. Vraiment, c'est simplement une mesure de justice fiscale minimale pour essayer de résoudre ce problème fondamental de régressivité des systèmes fiscaux contemporains et le fait précisément en particulier que les très grandes fortunes ont des taux effectifs d'imposition nettement plus faibles que les autres catégories sociales, ce qui ne me semble pas soutenable politiquement, ce qui ne peut que conduire à une réduction de la confiance dans les gouvernements et un affaiblissement de la démocratie.
C'est un peu de 2%, ça commencerait de quel niveau? Ça serait que pour les milliardaires ou des niveaux un peu plus bas aussi, comment ça serait?
Alors, je pense que initialement, du moins, il faut commencer par les très très grandes fortunes. Alors, on peut définir, on peut débattre de ce que ça signifie, mais c'est vrai que pour fixer des idées, pour démarrer une conversation, on a fait cette proposition de se concentrer sur, pour commencer, sur les milliardaires en dollars, les gens qui ont plus d'un milliard de dollars de patrimoine, d'actifs nets, de dettes. Mais c'est un début, hein, ce ne serait pas la fin, évidemment. Je pense que c'est important de montrer que ces très grandes fortunes qui aujourd'hui sont structurellement sous-taxées, massivement sous-taxées, qu'on peut les taxer davantage. Et une fois qu'on aura fait la démonstration que c'est possible et qu'on y arrive, alors il deviendra possible d'abaisser le seuil d'imposition parce qu'après tout, les problèmes d'optimisation fiscale, les problèmes d'évasion fiscale se posent aussi pour des gens qui ont des centaines de millions de dollars de patrimoine, des dizaines de millions de dollars de patrimoine. Dans tous ces cas-là, en fait, c'est possible de structurer sa fortune de façon telle à ce qu'elle génère peu d'impôts sur le revenu et donc il y a aussi besoin d'une forme d'imposition minimale à ce niveau-là de richesse. Mais je pense que dans tous les efforts qui ont été faits par différents pays historiquement pour taxer les grandes fortunes, aucun pays n'avait vraiment jamais réussi à bien taxer les très très grandes fortunes et donc il faut commencer par là, montrer qu'on a appris des erreurs du passé, montrer qu'on arrive à bien taxer ceux qui ont la plus grande capacité contributive et ceux qui aujourd'hui payent le moins. Et ensuite, ça va ouvrir tout un domaine de possibles. On pourra abaisser le seuil, on pourra réfléchir collectivement à d'autres réformes fiscales qui deviendront acceptables une fois que les plus grandes fortunes ont été mises à contribution.
Alors, comment est-ce possible d'empêcher les plus riches d'éviter des impôts plus élevés en s'installant dans d'autres pays?
Écoutez, la façon la plus simple d'éviter ce problème, c'est de continuer à les taxer une fois qu'ils ont quitté le pays. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la concurrence fiscale internationale, ce n'est pas une espèce de loi de la nature, hein, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose comme la gravité qui s'imposerait à nous, c'est un choix de politique publique. Aujourd'hui, on tolère cette concurrence fiscale, c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un a vécu toute sa vie au Brésil, est devenu milliardaire au Brésil, et tout d'un coup décide de partir et de s'installer en Suisse, alors immédiatement, le Brésil arrête de taxer cette personne. Mais en fait, le Brésil pourrait faire un autre choix et pourrait dire: bon, bah voilà, si vous êtes devenu extrêmement riche au Brésil, vous avez passé 50 ans, 60 ans, et que maintenant vous choisissez de vous délocaliser, de vous installer dans un territoire à fiscalité faible, nous, le Brésil, nous allons continuer à vous taxer après votre départ, pendant un certain nombre d'années, on peut discuter, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter immédiatement, parce qu'après tout, tout le monde est d'accord pour dire que la richesse, c'est en partie une construction sociale. Donc si vous êtes devenu c'est en partie le produit d'un effort collectif. Donc, si vous êtes devenu extrêmement riche au Brésil, c'est parce que vous avez bénéficié des infrastructures publiques, des biens publics, de l'éducation, de la santé, etc. Et donc, il n'y a aucun droit naturel à s'expatrier une fois fortune faite et à n'avoir plus aucun impôt à payer dans son pays d'origine. Donc, c'est quelque chose qui, ce problème de délocalisation fiscale des grandes fortunes, qui est un vrai problème et qui a miné les propositions d'impôts progressifs et de taxation plus progressive des hauts revenus et des hauts patrimoines dans la plupart des pays, ce problème a en réalité une solution très simple et très concrète qui est celle que je viens de décrire.
Alors, passons maintenant à l'autre sujet sur la taxation des impôts sur les entreprises. Comment faire pour que les grandes entreprises qui sont dans plusieurs pays payent plus d'impôts qu'ils payent aujourd'hui?
Alors, pour la taxation des entreprises, il faut commencer par s'appuyer sur l'accord international qui a été avalisé en 2021, où 140 pays se sont mis d'accord pour instaurer une taxe minimale de 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales. Alors, il faut s'appuyer dessus, parce que c'est un grand progrès, le fait qu'il y ait cet accord international. C'est la première fois qu'il y a un accord international qui vient mettre une limite à la baisse au taux d'imposition, qui vient instaurer un taux plancher. Mais en même temps, tout le monde comprend que le taux de 15% est beaucoup trop faible. Hein. Le taux d'impôt sur les sociétés au Brésil, le taux normal est beaucoup plus élevé que ça. Dans la plupart des pays, il est nettement plus élevé. Il n'y a absolument aucune raison que les sociétés multinationales soient autorisées légalement à payer moins d'impôts, beaucoup moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises. Donc, il faut s'appuyer sur l'existant et dire il faut aller au-delà, il faut des taux minimaux d'imposition plus élevés. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un accord global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un consensus global. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de pays leaders qui aient une masse critique en termes de nombre de consommateurs en particulier et qui disent, voilà, si les entreprises veulent continuer à avoir accès à notre marché, en échange de cet accès au marché, elles vont devoir payer plus d'impôts et elles vont devoir se soumettre à une norme d'imposition minimale plus ambitieuse que les 15%, ça peut être 20%, ça va être 25%. Et en gros, l'idée fondamentale, c'est de conditionner l'accès au marché au respect de certaines normes, ce qu'on fait déjà en réalité pour tout un tas de sujets, de normes phytosanitaires par exemple, mais en l'occurrence au respect de certaines normes de justice fiscale minimale. Si une entreprise veut avoir accès au marché brésilien, elle doit se rapprocher de la norme brésilienne, et la norme brésilienne, ça pourrait être demain plus ambitieux que 15%, ça pourrait être 20%, 25% de taux minimum effectif d'imposition.
Il y a des discussions sur ces sujets dans l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Le Brésil et d'autres pays sont en train de devenir membres de l'OCDE. Est-ce que ça, si jamais ce processus résulte dans une ampliation de l'OCDE, ça va favoriser à ces genres de propositions?
Je pense que l'OCDE a pu jouer un rôle positif en termes de création de nouvelles formes de coopération fiscale internationale. Par exemple, sous l'égide de l'OCDE, en 2018, s'est créé un échange automatique d'informations bancaires entre pays. Les territoires comme la Suisse, les îles Caïmans, etc., qui traditionnellement avaient un secret bancaire très, très strict, ont accepté de partager leurs données bancaires automatiquement avec les autres pays, y compris le Brésil, tout ça sous l'égide de l'OCDE. Donc ça, c'est quand même un grand succès de la coopération économique et internationale. De même, l'accord, même s'il est très insuffisant sur la taxation des multinationales, l'accord sur la taxation à 15%, le taux minimum à 15%, c'est un pas dans la bonne direction. Donc je pense que l'OCDE a joué un rôle positif, mais néanmoins, la limite principale de l'OCDE, c'est que ça reste fondamentalement un petit club de pays, en l'occurrence aujourd'hui 38 pays à revenus plutôt élevés. Et pour véritablement progresser sur ces questions de justice fiscale internationale, il est essentiel de prendre une perspective véritablement globale qui prenne au sérieux les intérêts des milliards d'habitants des pays en développement, des pays du Sud global. Donc, il faut que le travail de l'OCDE... L'OCDE ne peut pas avoir un monopole sur ces questions de coopération fiscale internationale. Il faut associer d'autres organisations et d'autres acteurs qui aient une perspective véritablement mondiale.
Quel rôle peut l'Organisation des Nations Unies jouer dans ces sujets?
Typiquement, les Nations Unies peuvent jouer un rôle positif dans la mesure où tous les pays en font partie et donc il y a cette perspective véritablement mondiale. Les Nations Unies ont déjà commencé des travaux très intéressants sur l'imposition du patrimoine. Il y a un sous-comité qui travaille à l'élaboration de règles type pour la création d'impôts sur les grandes fortunes dans les différents pays. Donc en fait, il y a une expertise réelle et une volonté d'avancer sur ces sujets de justice fiscale, de progressivité fiscale au sein des Nations Unies. Et je pense qu'en travaillant en collaboration avec l'OCDE, avec d'autres organisations internationales, les Nations Unies ont un rôle extrêmement positif à jouer.
Est-ce que l'augmentation des impôts incitera-t-elle les entreprises à augmenter les prix de leurs produits?
C'est pas complètement impossible. Ça dépend typiquement du degré de concurrence qui peut exister sur les marchés. Sur des marchés où il y a des gros pouvoirs de monopole, où les entreprises peuvent fixer les prix. C'est possible qu'une partie des taxes soit répercutée sous la forme de prix plus élevés à la consommation. Dans les marchés où il y a beaucoup de concurrence, où les entreprises n'ont pas de pouvoir de marché, ne peuvent pas vraiment fixer les prix, c'est moins probable. Simplement, il faut regarder le calcul d'ensemble, c'est-à-dire qu'il est possible qu'une partie de ces taxes se répercute en prix un peu plus élevé à la consommation. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un aspect économique négatif. Mais de l'autre, il y a un aspect économique très positif, qui est d'abord que ces taxes peuvent générer des recettes fiscales supplémentaires qui pourraient être utilisées pour financer la santé, l'éducation pour tous, la construction d'infrastructures publiques, qui sont vraiment les moteurs de la croissance économique, hein, et du développement. Et puis de l'autre, ça permettrait de réduire les inégalités fiscales qui risquent sinon de miner nos démocraties. Donc il y a, bon, comme tout le temps, hein, en matière de politique économique, il y a des arbitrages à faire. Mais si on essaie de quantifier tout ça rigoureusement dans des modèles économiques, on voit que les aspects positifs dominent très nettement les aspects négatifs potentiels en termes de petites hausses de prix.
La critique de ce type de proposition, c'est très connu, est que l'État devrait réduire les coûts et les impôts dans tout le pays. Comment répondre à cela?
C'est assez simple de répondre à cela, parce qu'en réalité, quand vous regardez tous les pays qui sont aujourd'hui les plus riches, hein, qui ont le niveau de revenu par habitant le plus élevé, ce sont tous des pays qui ont des taux de prélèvement obligatoires élevés, de l'ordre de 35, 40, 45, 50% du produit intérieur brut, du PIB. Au contraire, les pays les plus pauvres, ce sont tous des pays qui ont des taux de prélèvement obligatoires faibles, hein, très faibles, de l'ordre de 5 à 10% du PIB. Et cette corrélation entre niveau de développement et poids des prélèvements obligatoires n'est pas une coïncidence. La raison pour laquelle il y a cette corrélation très forte, c'est parce que le moteur essentiel de la croissance économique, ce qui est vraiment essentiel pour le développement, c'est le financement, c'est l'accès à l'éducation de qualité pour tous, c'est l'accès à la santé de qualité pour tous, c'est les infrastructures publiques, et on sait que tout ça, ça nécessite des impôts, hein, des financements publics tout à fait significatifs. Donc ça, c'est la grande leçon, si vous voulez, quand même, de l'histoire économique mondiale depuis plusieurs siècles, c'est que si vous voulez vous développer, il faut investir massivement dans l'éducation pour tous, dans la santé, dans les infrastructures. Et on ne peut pas faire ça en se passant d'impôts.
Donald Trump, alors qu'il était président des États-Unis, il a réduit les impôts des entreprises. S'il redevient président des États-Unis, sera-t-il plus difficile d'augmenter les impôts dans d'autres pays?
Non, je pense que il est possible de faire des progrès en matière de coopération internationale sur la progressivité fiscale avec des coalitions de pays. Il faut qu'il y ait suffisamment de pays dans ces coalitions, mais les États-Unis n'ont pas besoin d'en faire partie. Ça, c'est très important. Par exemple, je vais vous donner une illustration très concrète. Sur l'accord sur la taxation des multinationales à 15%, les États-Unis n'ont pas ratifié cet accord. Et néanmoins, il va fonctionner. Il est déjà en application dans 35 pays. Il va bientôt être mis en œuvre dans beaucoup d'autres pays, dans plus d'une centaine de pays. Il a été bloqué au Congrès américain, mais ce n'est pas grave, parce que dans l'accord, il y a une clause qui dit que si certains pays choisissent de ne pas appliquer cette taxe minimale à 15%, les autres pays, ceux qui acceptent d'appliquer l'accord, auront le droit de taxer les bénéfices des sociétés multinationales qui sont situées dans les pays qui n'appliquent pas l'accord. En l'occurrence, si des sociétés américaines continuent à payer moins de 15%, le Brésil, l'Inde, la France, enfin les différents pays qui vont appliquer cet accord, auront le droit de surtaxer ces entreprises américaines de façon à ce que leur taux effectif d'imposition atteigne au moins 15%. Donc ça, c'est très important. On n'a pas besoin que les États-Unis fassent partie de ces accords internationaux. Ce qu'il faut, c'est une masse critique de pays. Donc il y a des coalitions qui sont à inventer. Ça peut être le Brésil avec certains pays européens, avec d'autres pays, avec des pays du Sud global. Mais il ne faut pas penser que si Trump revient au pouvoir en novembre, tout va s'arrêter. Hein. Rien n'est plus faux. Au contraire, il faudra simplement faire un effort pour inventer des nouvelles formes de multilatéralisme parmi les pays où il y a la volonté politique d'avancer dans la lutte contre les inégalités et vers la justice fiscale.
Alors, vous venez de discuter tous ces sujets-là avec les ministres des Finances du G20 à São Paulo. Quel est votre avis? Quelle était l'acceptance ou enfin le résultat de ces discussions-là? Qu'est-ce qui vous a paru?
Effectivement, donc j'ai présenté à la réunion des ministres des Finances du G20 qui a eu lieu à São Paulo hier, hein, fin février, une proposition de taxation minimale coordonnée des très grandes fortunes. Et plus précisément, la proposition qu'on avait formulée dans notre rapport sur l'évasion fiscale, cette idée d'une taxe minimale de 2% pour les milliardaires mondiaux. Et dans les réactions, j'ai été frappé par plusieurs choses. D'abord, certains pays ont exprimé un fort soutien. Et là, je veux vraiment rendre hommage d'abord au leadership du Brésil dans sa réponse. Le ministre des Finances brésilien, Fernando Haddad, a dit, il faut qu'on évolue vers cette direction-là. C'est essentiel. Nous soutenons fortement ce genre de proposition. Mais il y avait d'autres pays aussi qui ont dit qu'ils étaient fortement en faveur. Par exemple, la France, ministre des Finances pourtant, est plutôt d'un parti conservateur, hein, a dit non, mais la France est en faveur d'une taxation minimale coordonnée sur les très grandes fortunes. Les États-Unis, dans la réponse de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, elle a dit oui, nous partageons cet objectif. Après tout, dans notre propre budget, dans le budget du président Biden aux États-Unis, il y a une proposition de billionaire income tax qui se rapproche en fait très fortement de ce que j'ai proposé hier. Donc il y a des pays clairement qui vont être moteurs, je l'espère, et qui ont exprimé en tout cas hier un très fort soutien. Et puis après, il y a beaucoup d'autres pays qui, sans se prononcer aussi fortement, ont dit quelque chose de très important. Ils ont dit, nous soutenons l'initiative de la présidence brésilienne du G20 de mettre à l'agenda du G20, la question de la progressivité fiscale, de la lutte contre les inégalités et de la taxation des très riches. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et c'est vraiment une erreur considérable dans notre façon de réguler la mondialisation depuis les années 80, qui est que tous ces forums OCDE, G20, etc., ont complètement ignoré les questions de justice fiscale et de progressivité fiscale. Et hier, pour la première fois, il y a de nombreux pays qui ont dit qu'ils soutenaient l'idée de mettre ces questions à l'agenda, mais aussi plus généralement l'idée qu'il y avait un besoin d'écrire de nouveaux traités internationaux sur ces sujets-là, sur ces sujets de taxation des très riches, de progressivité fiscale. Et donc ça pourrait quand même ouvrir une nouvelle ère de la coordination internationale qui mettrait au cœur du multilatéralisme. La question de la lutte contre les inégalités et de la lutte contre les inégalités qui peuvent sinon corrompre nos sociétés démocratiques. Et cette évolution, elle me semble extrêmement importante pour tous ceux qui sont attachés au futur de la démocratie dans le monde.
Professeur Zucman, je vous remercie pour cette entrevue.
Merci beaucoup.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1º de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.